Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business Partenariat.
BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH. Alexandre Lichamp.
Oui, bonjour. C'est le cas effectivement aujourd'hui encore. L'entreprise qui recrute, eh bien, il y a des opportunités d'emploi. Pourquoi pas vous qui pouvez en profiter, recruter, vous aider à recruter votre futur employeur. C'est notre rôle dans cette émission, a priori, en première position. Et ça va être le cas dans quelques minutes avec Maëlys Ancelin. Maëlys Ancelin est directrice des opérations et du développement de l'Âge d'Or Expansion. Vous l'avez compris, l'âge d'or expansion, ben on parle du troisième âge, la crise sanitaire qui a mis en lumière précisément le rôle des acteurs de l'aide aux seniors. Eh bien, cette entreprise qui compte des implantations, 120 implantations à travers la France, plus de 2000 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, est à la recherche de nouveaux collaborateurs, des postes en CDI, 250 précisément, mais aussi de franchisés, pourquoi pas, une opportunité de créer son emploi et ceux des autres par la franchise avec l'âge d'or. Vous allez en savoir plus dans quelques minutes. Dans cette première partie, eh bien, on va plonger dans les RH purs avec un auteur, Stéphane Mallard. Voici son bouquin. Il date de 2018, c'est pas vieux, mais il en prépare un autre. Disruption. Stéphane Mallard, pour l'attraper, ben c'est pas évident. Comme il dit, où j'habite ? Dans les avions. Et tout le temps entre la France, l'Europe, les États-Unis et partout dans le monde, il donne des conférences. Il est auteur et conférencier, auteur de ce livre. Disruption, c'est un peu avant l'heure d'avoir vu et compris que l'AI, l'intelligence artificielle, était déjà là. Il en prépare un autre. Quelle est la différence entre l'intelligence artificielle, la disruption, la révolution ? On va en savoir plus avec lui. Préparez-vous au changement, c'est ce qu'il dit, et on y est, voilà, dans le changement. Deuxième partie, on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit de Bulldozer. Ça s'écrit AIR à la fin, Bulldozer. Et c'est Ali El Hariri qui en est le président, qui va venir nous en parler. Il vient de lever 4 millions d'euros et il est à la recherche de nouveaux collaborateurs. 20 postes à pourvoir dans cette entreprise qui propose, c'est une plateforme qui propose d'aider tous ceux qui font des projets, des constructions, et de rassembler tout ça dans une plateforme. Entre-temps, on aura reçu notre ami Jean-Pierre Camard, vous le connaissez si vous nous suivez. Jean-Pierre Camard, c'est un rendez-vous assez régulier avec lui. Il est le président et fondateur de ProConsult Group. C'est une entreprise qui réunit autour d'elle des centaines de psys. Il a eu la bonne idée, il a été un des premiers à imaginer la possibilité pour les salariés, eh bien, de faire appel à des psys, et il a des entreprises de toute taille qui font appel à lui. Mais surtout, il est notre observateur privilégié de la crise du Covid. Comment les hommes et les femmes, les salariés, comment en matière d'évolution du stress au travail, depuis avril, il vient nous voir, et bien là, son dernier baromètre date du 17 novembre, on va en savoir en plus dans quelques minutes. Allez, voilà le sommaire, on démarre par l'entreprise qui recrute, l'âge d'or, on y est.
BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute.
Bonjour Maëlys Ancelin, ravi de vous rencontrer, comment allez-vous ?
Très bien, bonjour à tous.
Bon, vous n'êtes pas senior, vous encore vous...
Pas encore, mais je prépare.
Ça commence à
je
quel prépare. Âge ? Il paraît que ça commence à 50 ans, c'est grave.
Alors, un peu plus, 60 ans.
Ah, ça, même plus, pour moi senior, c'est...
À partir de 60 ans.
C'est l'âge d'or, 60 ans.
Le marché est vaste et qu'on a beaucoup de choses à faire.
Alors, je suis ravi de vous rencontrer, parce que l'âge d'or, c'est une structure... Elle existe depuis combien de temps ? On va faire la carte d'identité d'abord.
Alors, ça, c'est une marque, on va fêter nos 30 ans.
Oui.
Donc, elle a été créée en 91. C'est une marque qui appartient à la CNP, la Caisse Nationale de Prévoyance. Donc, c'est un acteur important de l'assurance de personnes et qui est elle-même filiale de la Banque Postale.
C'est un joli nom, l'âge d'or.
C'est un très joli nom. Alors, quand on a fait des focus group il y a quelques temps, et l'âge d'or s'est révélé comme un nom qui était important, parce que tout le monde veut finalement aller dans cet âge d'or. C'est un beau nom.
Et on estime encore aujourd'hui que être dans l'âge d'or, c'est l'âge d'or, d'être au-delà de 70 ans dans les... Dans,
C'était marrant parce que
c'est une formule en fait.
Dans ces focus group et ces groupes de travail qu'on adressait, il y avait quand même cette appétence pour cet âge dit d'or. Voilà.
Alors vous êtes en plein dans l'actualité, porté par l'actualité, la double actualité, à la fois l'augmentation du nombre d'hommes et de femmes qui arrivent à cet âge de seniors et qui ont besoin de trouver des solutions. Vous proposez-vous le maintien à domicile, votre réseau propose de l'aide Exactement. Au maintien à domicile des seniors et des personnes en fragilité, c'est bien ça ?
C'est exactement ça.
C'est la baseline, comme on dit, de votre métier ?
Tout à fait. En fait, ce sont des métiers de service pour le bien-être des seniors ou des aînés à domicile. Et en fait, on a deux activités principales, dont cette activité qui est pour les particuliers, l'âge d'or à partir de 60 ans, donc qui consiste à permettre de rester au domicile le plus longtemps possible, ce qui est le choix de à peu près tout le monde. Ça, c'est la première
Est-ce qu'on a des pourcentages ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de personnes vivent véritablement ?
Tout à fait. Il y a de nombreuses enquêtes qui montrent que 90% des personnes souhaitent évidemment vieillir au domicile. Mais c'est assez naturel de vouloir plutôt vieillir.
Bien sûr. Non, mais ça, c'est le souhait. Oui. Maintenant, est-ce que véritablement, on a des chiffres sur le nombre de personnes qui restent à domicile et qui vieillissent à domicile ?
Alors, il y a à peu près 700 000 personnes qui sont en EHPAD. Évidemment, oui. ce nombre de personnes, ça correspond au stade de la dépendance ou de fragilité qui est le plus avancé. Le reste des personnes restent plutôt à son domicile.
Voilà. Alors, je disais, vous êtes porté, votre marché à vous, qui est les personnes âgées qui restent à domicile, est porté par l'augmentation de ce nombre de personnes âgées à domicile, avec grâce à tout ce qui est la technique médicale qui permet d'améliorer la vie des personnes âgées. Et puis, malheureusement, avec la Covid, on a bien vu les EHPAD qui ont été touchés de plein fouet. La mort dans les EHPAD, c'était quelque chose de terrible et qui fait réfléchir aujourd'hui. J'imagine que ça doit augmenter l'envie de rester chez soi.
Ça augmente sûrement l'envie de rester chez soi. Et puis surtout,
et de tout faire pour.
Voilà, ça montre en quoi le domicile est fondamental pour des raisons évidentes de sécurité. Donc, ces périodes de confinement, que ce soit la première vague et puis la deuxième vague, pardon, montrent vraiment que le domicile est sécuritaire, d'une part, et puis d'autre part, qu'il y a un enjeu de lien social et que le domicile permet de maintenir ce lien social.
Alors, Maëlys, parlons de vous et de vos recrutements. On est là pour, encore une fois, aider tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent peut-être à trouver un emploi grâce à vous. Je disais que vous aviez 250 postes à pourvoir. On va d'abord parler des postes à pourvoir et après de la franchise, parce que vous dites qu'il y a des opportunités. Alors, parlons d'abord de ce que vous recherchez, de ce dont vous avez besoin. Je disais que vous étiez dans 120, c'est ça, 120
implantations. Il y a effectivement 120 implantations. Donc, ce qu'on recherche, en fait, c'est à deux niveaux. Oui. Le premier niveau, c'est au niveau de l'activité pour les particuliers, donc c'est âge d'or service. Et puis, le deuxième niveau, c'est âge d'or expansion, c'est pour les franchisés.
Alors, on parlera des franchisés après.
Donc, le premier niveau, effectivement, c'est 250 postes, c'est en CDI, et on recherche des intervenants à domicile. Donc, ce sont des personnes qui vont, au quotidien, assurer une présence pour permettre de maintenir la personne au domicile.
Donc, 250 postes jusqu'à la fin de l'année, juste là, pour le mois donc qui vient. On est en novembre, donc vous avez besoin rapidement.
Exactement. En fait, nos franchisés constatent tout le temps que la demande est supérieure à l'offre. Donc, il y a vraiment un besoin important de personnes qui puissent intervenir au domicile pour s'occuper de nos aînés.
Parlons de ces 250 que vous recherchez, je le répète, en CDI. Donc, ce sont des hommes et des femmes. Ils doivent avoir un diplôme pour pouvoir intervenir.
Alors, il y a des Exactement. Il y a des qualifications qui sont celles d'un secteur, qui sont différentes en fonction des métiers que vous allez exercer, qui sont des qualifications que vous pouvez avoir à partir d'un CAP, donc c'est des choses qui sont accessibles.
Mais il faut l'avoir pour exercer.
Oui, tout à fait, mais il y a des formations qui sont notamment des formations professionnelles qui permettent facilement d'acquérir ces formations. Et puis après, il y a des formations au fil de l'eau, de la formation continue et professionnelle, qui permet aussi d'acquérir ces compétences qui sont à deux niveaux. Il y a évidemment des savoir-faire techniques et puis il y a un savoir-être qui est agréable puisque vous allez chez la personne, vous allez dans son intimité. Donc il faut apprendre à s'occuper d'une personne un petit peu fragile.
C'est ça. Il faut au départ avoir de l'empathie, j'imagine, pour aller vers les personnes âgées.
Exactement.
Il faut avoir à la fois de la technique, vous avez raison, donc c'est un métier.
C'est un vrai métier, c'est un beau métier.
Il s'appelle comment ce métier ?
C'est l'intervenant à domicile, c'est l'auxiliaire de vie. Alors on auxiliaire en parle beaucoup dans cette période de confinement. Oui. Si on peut dire chose positive de cette période, c'est que ce métier d'auxiliaire de vie, on en a entendu parler. Donc, c'est vraiment toutes ces tâches qui sont au domicile pour aider une personne à se lever, etc.
Est-ce que par les temps qui courent, c'est pas plus difficile à trouver aujourd'hui? Parce qu'avec le confinement, auxiliaire de vie, ça veut dire qu'il faut aller chez les personnes âgées, il faut se déplacer, il faut être au contact. Est-ce que le confinement a un rôle à jouer?
Alors, c'est effectivement, vous avez raison, on recherche 250 collaborateurs, enfin les franchisés recherchent 250 collaborateurs, donc oui, c'est effectivement difficile à trouver parce qu'on en a besoin et puis que c'est un métier qui est beau et qui est difficile. Donc ça passe par deux choses, ça passe par créer des cadres de travail qui sont un peu différents et qui permettent de valoriser ces personnes qui souffrent d'un manque de connaissances et de reconnaissance, donc cadre de travail attirant avec des salaires qui soient aussi valorisants, et puis des formations. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de formations qui sont mises en place pour que ces personnes puissent acquérir les compétences. Donc,
ces intervenants qui vont chez les particuliers, qui vont chez les personnes âgées, interviennent combien de temps par jour?
Alors, en moyenne, ça va vraiment dépendre du niveau de fragilité de la personne.
Oui.
Donc ça peut aller de 3 heures par semaine à 2 heures, 4 heures, 5 heures
par jour.
Oui. Et puis la nuit aussi. Donc c'est vraiment c'est vraiment des plans, on appelle ça des plans d'aide, qui sont personnalisés en fonction de votre niveau de fragilité. Donc c'est très très personnel comme dispositif.
Voilà, puis il faut avoir, c'est pas évident de s'occuper des personnes âgées.
C'est pas évident.
De gérer des personnes âgées qui sont parfois, qui perdent un peu la tête, non mais c'est vrai, c'est une réalité.
Exactement, c'est pas évident mais c'est très gratifiant. Et justement pour toutes ces pathologies, ces maladies cognitives, il y a des formations qui permettent de dire ok, comment on fait pour intervenir auprès de ce type de personnes qui peuvent souffrir de tels et tels sujets, il y a une manière de faire.
Donc quand vous dites en CDI, ça peut être entre guillemets complet quoi.
C'est à temps complet, on s'adapte, les franchises généralement s'adaptent aux besoins de leurs collaborateurs et de leurs futurs collaborateurs, adaptent les plannings. Donc c'est vraiment des situations qui sont adaptées pour permettre aux collaborateurs de travailler dans des bonnes conditions.
On a besoin de ces intervenants. Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et c'est bien qu'elles soient chez elles, qu'elles restent chez elles. Psychologiquement, c'est important. On le sait, si vous avez des parents ou des grands-parents dans ce cas-là, vous le savez. Et c'est bien que des hommes et des femmes se dévouent finalement. C'est un métier, mais qu'elles se dévouent.
C'est un beau métier.
C'est un beau métier, aider les autres, aider l'autre, être au contact de ces personnes âgées. Alors, des postes à pourvoir, dernière question sur ces profils, dans toute la France.
Toute la France, exactement.
D'accord, immédiatement, avec une formation à la clé, j'imagine.
Avec une formation qui est au fil de l'eau, et puis la personne peut arriver en ayant une propre qualification.
Deuxième point, alors pardon, mais vous me citiez les franchises.
Exactement.
Votre développement, votre expansion, ça s'appelle l'âge d'or expansion, se développe bien sûr par la franchise.
Exactement.
Donc vous dites créer une franchise, est-ce qu'il y en a aujourd'hui est-ce qu'il y a des régions où vous manquez de franchisés?
Alors oui, on a.
Est-ce qu'il y a une priorité en tout cas?
Il y a des priorités qui sont données dans des grandes, petites et moyennes agglomérations. Donc on a l'Île-de-France sur lequel on a des priorités, il y a le nord de la France, il y a aussi l'ouest de la France et le sud de la France, donc c'est très vaste.
C'est un peu partout.
Exactement. On a, aujourd'hui on a 120 implantations. On peut facilement doubler dans les prochaines années le nombre d'implantations.
Et là, à Tricorcal,
c'est très local nos métiers, donc c'est des petites zones pour justement avoir une capacité à prendre en charge correctement les personnes.
Oui, ce sont des opportunités de proximité.
Exactement.
C'est de la création de proximité.
Exactement.
Voilà. Il y a la grande ville, Nantes, Bordeaux, Lille, Strasbourg, mais à côté de ça, il y a des petites villes, voire même des petites agglomérations où on peut créer parce qu'il y a des besoins.
Il y a des besoins et ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas forcément une grande zone qui permet un bon développement. Des zones de plus petites, plus modestes ont des besoins importants et il y a cette proximité qui permet un accélérateur au développement.
Small is beautiful.
Ah, exactement.
Donc, et l'intérêt de vous rejoindre, dernière question, pour un franchisé, quelqu'un, il va créer de l'emploi.
Il va créer
Donc on le voit bien, puisque chaque franchise crée bien sûr des postes de...
Exactement.
Redites-moi le mot.
Des intervenants.
Des intervenants, voilà, des intervenants. Donc c'est créer son emploi et créer d'autres emplois. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça peut être rentable?
C'est tout à fait rentable. Alors, donc c'est un investissement.
Vous
n'allez
pas me dire le contraire, j'imagine, mais bon.
On recrute. Donc, c'est un entrepreneur, celui qui va créer sa franchise. Ouais. D'abord, le profit
principal. C'était la question, voilà.
Voilà, c'est un entrepreneur qui va investir. Chez nous, l'investissement est relativement modeste, puisque c'est à peu près 60 000 euros avec un apport personnel d'environ un tiers, donc 20 000 euros. Mmh. Et évidemment, un investissement qui est rentable, puisqu'il y a une valeur de revente de l'entreprise. Donc son intérêt de nous rejoindre, c'est qu'on est un secteur, ce que vous disiez au départ, on est un secteur qui a une forte demande.
Ah oui, oui.
Voilà.
Sur
lequel il y a des modèles de développement éprouvés, celui d'un franchiseur, et sur lequel il y a des perspectives de créer de la valeur.
Merci à vous, vous restez avec nous.
Avec plaisir.
Vous êtes préparé au changement de ce monde. Vous pensez, vous faites partie des gens qui pensent qu'il y a un avant et un après Covid. Vous pensez qu'on est dans un nouveau monde.
Je pense qu'il y a un avant et un... Alors, je ne sais pas si c'est avant ou après le Covid, mais en tout cas, qu'il y a des évolutions sur lesquelles il faut qu'on se prépare.
Le monde change, vous
avez sentiment. Exactement. Oui, le monde change et qu'il y a des réflexions à avoir, justement, pour se dire quelle est la place de la personne dans ce changement.
Alors, l'intelligence artificielle, voilà, c'était pour amener notre invité suivant. Il est là, déjà. Le voyageur à travers le monde, c'est Stéphane Mallard, qui est l'auteur de Disruption, un livre qui est paru il y a déjà 2 ans. Deux ans. Et il en prépare un autre, mais c'était déjà visionnaire, Disruption. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi l'intelligence artificielle est en train de chambouler le monde des RH ? Réponse avec Stéphane Mallard.
BFM Business. Le Club Média RH. Décryptage RH.
Bonjour Stéphane Mallard.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Je suis ravi, entre deux avions, me disiez-vous, parce que vous n'avez pas de domicile fixe, si j'ai bien compris.
Alors, sauf depuis le mois de mars dernier, où tout se fait à distance, mais sinon, oui, c'était ma vie les 3 dernières années, absolument.
C'est-à-dire que vous alliez donner des conférences.
De ville en ville, en Europe, aux États-Unis, petit peu en Asie, pour essayer d'éveiller les esprits à ce nouveau monde qui, je dois le dire, en fait, m'a un peu scotché, parce que tout ce que j'ai décrit dans ce livre, qui, vous l'avez rappelé, date de 2018, je pensais que ça arriverait sous une dizaine d'années, et tout est en train d'arriver en même temps.
Alors, vous êtes entrepreneur, conférencier diplômé de Sciences Po Paris, bon, ça c'est pour votre cursus, et l'université de Québec.
À Montréal.
Tabernacle à Montréal. Et vous avez occupé plusieurs postes dans le numérique. Vous intervenez, vous venez de le dire, en Europe, enfin, quand on peut voyager en Europe, aux États-Unis, etc. Et vous avez écrit ce livre, justement, pour affirmer qu'aujourd'hui, eh bien, l'AI, l'intelligence artificielle, comme on dit en anglais, en français, l'intelligence artificielle, eh bien, a pris une place très importante dans la vie des entreprises, mais pas seulement des entreprises, dont les RH. Alors, première question, bien sûr, quel est l'impact de l'intelligence artificielle? Mais auparavant, peut-être, juste avant d'entrer dans le studio, je vous ai posé la question, c'est quoi la différence entre disruption, qui est un mot français, qui signifie quoi?
Disruption. Alors c'est même de l'ancien français, ça vient de même du latin disrumpere qui veut dire rupture, chamboulement, c'est un mélange de tout ça. Et il faut savoir qu'en anglais c'est un mot qui est courant. On va parler de la disruption de la chimie dans votre corps lorsque vous avez une maladie, de la disruption du trafic aérien, voilà, un chamboulement. D'accord. Sauf que dans le sens digital, il y a quelque chose de plus.
Ah, on va y arriver. Et la différence entre disruption et révolution?
Alors, une révolution, au sens étymologique, c'est juste un tour. On a tendance à l'oublier. Mais en fait, quand on parle de révolution, on parle de révolution pour qualifier des changements un peu rapides et brutaux, mais surtout des changements qu'on n'a pas vu venir, parce que c'est des forces qui font tomber des systèmes.
C'est vrai.
Des produits, des services, des systèmes politiques.
Des sociétés.
Mais c'est plutôt involontaire, quelque chose qu'on ne voit pas venir, ou après coup. Une disruption, cette fois-ci, il y a une démarche volontaire. Et on parle de disruption aux États-Unis depuis maintenant une dizaine d'années, parce que vous avez des entrepreneurs, des capitaux risqueurs, des individus qui prennent la liste de tous les produits, les services, de toutes les industries qui existent et qui se demandent pour chacun d'entre eux comment est-ce qu'on les rend obsolètes en utilisant les nouvelles technologies.
Alors justement, vous nous dites l'intelligence artificielle, on va retourner vers les RH purs.
Oui.
C'est la fin du salarié, ça c'est votre conviction. Et l'humanité augmentée, ça veut dire quoi? C'est ce que vous développez dans votre livre.
Alors, en réalité, il faudrait prendre 4 heures pour rentrer dans les détails.
C'est vrai,
de tout
on
ça.
A 10 minutes.
Je tiens quand même à vous rassurer. La fin du salariat, c'est une conséquence qui arrivera, c'est inéluctable, mais je vous rassure, ce ne sera pas du jour au lendemain. Là, on a un petit peu de temps pour voir venir. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi le salariat existe. Ça, c'est Ronald Coase qui a très bien montré ça en économie. Il a expliqué qu'en gros, vous avez 2 manières de produire. Vous faites appel à des indépendants ou des salariés. C'est quoi la différence? Quand vous faites appel à des indépendants, il faut aller les chercher, il faut contractualiser, il faut mesurer leur performance, etc. Ronald Coase explique que tout ça, il y a des coûts de transaction pour aller chercher les indépendants. Vous savez, c'est les anciens artisans. Et il a expliqué que vous avez une autre solution, c'est de prendre des gens et de les mettre dans une entreprise et de les faire se coordonner entre eux, vous leur donner un salaire, et c'est eux qui produisent. Et lorsque vous mettez les gens dans une entreprise et qu'ils travaillent entre eux, vous avez des coûts de coordination.
D'accord.
Et ce qu'a montré Ronald Coase, il a expliqué l'existence des entreprises avec sa théorie de la firme, avec ça, il a dit à partir du moment où les coûts de coordination dans l'entreprise sont inférieurs aux coûts de transaction, tous ceux que j'ai cités pour aller chercher les indépendants, mesurer, etc., coûts de contrat, sont inférieurs, alors il est rationnel d'embaucher, d'avoir du salariat. C'est ce qui explique la naissance de l'entreprise avec le salariat moderne, une centaine d'années à peu près. Et bien avec le numérique, les nouvelles technologies, on est en train d'inverser ces coûts. Les coûts de transaction pour aller chercher des indépendants, peu importe le job, tout ce que ça implique, deviennent inférieurs au coût de coordination dans l'entreprise. Je ne parle pas de rémunération du travail.
Oui, on n'en est pas là.
Travail,
bien sûr, oui.
Ça dépend que de l'offre et la demande pour un job.
Bien sûr.
Avec les compétences ou ce que vous voulez. Là, c'est uniquement l'inversion des coûts de transaction par rapport aux coûts de coordination. Mmh. Et donc, il devient de plus en plus rentable de faire appel à des travailleurs indépendants. Et on le voit en ce moment, on a une montée en puissance des travailleurs indépendants dans tous les domaines. Ça a commencé par l'IT, ça vient dans le secteur RH, mais c'est en train de se disséminer partout.
On voit bien, d'ailleurs, il suffit de voir dans les annonces de plus en plus, vous en parlez vous-même, avec les recherches d'indépendants, ces hommes et ces femmes qui peuvent être créateurs d'entreprises au travers d'un réseau, ça c'est une forme de création, vous êtes d'accord ?
Absolument.
On est dans le sujet, là.
Oui, et alors...
Cet exemple.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde dans lequel on entre, à partir du moment où il existe une demande pour un job, pour un emploi, une compétence... et que l'entreprise a une capacité, enfin n'a pas de capacité de pouvoir sur son marché, sur son prix, si elle n'est pas en gros en situation de monopole, alors il est rationnel de faire appel à des indépendants. Et de l'autre côté, pour l'indépendant, il est plutôt rationnel de sortir du salariat pour bénéficier de rémunérations plus attractives.
Alors, oui. Alors parlons des RH purs cette fois. Je comprends votre raisonnement et parlons des RH purs. Vous dites que à terme, les algorithmes vont intervenir. On auront une connaissance avec les algorithmes, on va avoir une connaissance tellement fine qu'on pourra prédire aussi bien les démissions, j'ai lu ça dans votre livre, et burn-out.
Oui.
Et même aider à constituer des équipes en matchant des profils émotionnels. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire, alors là, c'est vraiment
la machine va guider les DRH. Ils n'auront plus besoin de travailler. Ils appuieront sur un bouton pour dire j'ai besoin d'eux. Lui va mal. Quand est-ce qu'il va aller mal, etc.
Alors, déjà, sachez que si on y réfléchit bien, il n'y a pas grand-chose de nouveau. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on utilise des outils, des technologies, des logiciels, des ordinateurs, c'est pour améliorer notre productivité et donc notre connaissance. Depuis toujours, on traite des données. Première donnée qu'on a traitée, c'était avec des logiciels comme Excel. Vous faisiez des calculs, vous aviez des données, des moyennes, des statistiques. Exactement. Sauf que là, on peut aller beaucoup plus loin. On va pouvoir déceler des indicateurs, parfois de manière très directe, pour vérifier le CV d'un candidat, par exemple, ce qui permet de gagner du temps pour un processus de recrutement, mais aussi vérifier ce qui est écrit sur le CV de manière indirecte. Typiquement, sur un CV, vous voyez quelqu'un qui écrit qu'il a été directeur commercial de telle entreprise, de telle date à telle date. Vous pouvez avoir un algorithme qui ira vérifier, croiser ces données avec ce qui est disponible sur Internet pour voir si la période où il était directeur commercial, c'était bien lui, s'il y a eu une performance de l'entreprise, de combien. Vous voyez, on va croiser toutes ces données. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on se rend compte avec ces technologies que toutes les données sont reliées indirectement et qu'on peut déduire plein de choses avec des données qui n'ont peut-être rien à voir. Je prends un exemple parlant dans la vie de tous les jours pour que les gens comprennent. Vous utilisez, par exemple, votre téléphone portable avec un GPS dessus, qui vous suit partout où vous allez. Eh bien, Google, juste avec la donnée GPS de votre smartphone et un algorithme d'intelligence artificielle, ils peuvent déduire votre pouvoir d'achat, puisqu'ils savent où vous déplacez, les fréquences et donc dans quel magasin vous allez, les aéroports où vous allez. Ils peuvent déduire éventuellement vos affaires extra-conjugales si vous en avez, vos loisirs. Ils peuvent déduire aussi peut-être votre risque.
Déduire, vous dites déduire.
Parce que ce sont des déductions indirectes. Mais regardez, en fait, il n'y a rien de nouveau parce que les humains font déjà ça. Lorsque vous discutez et que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, que vous allez regarder sa manière de s'habiller, que vous allez écouter son accent, son vocabulaire, son débit de parole, et bien avec toutes ces données indirectes, vous allez déduire d'où vient cette personne. Vous allez déduire son niveau d'éducation, peut-être. Peut-être.
Bien vu, oui, c'est
ça. Si elle a bien dormi la nuit d'avant avec son débit de parole, que sais-je. Vous voyez, on fait toujours des corrélations.
Son âge, etc.
Exactement. Et bien, on est en train de pousser la logique très très loin avec ces algorithmes.
C'est une bonne chose.
Alors, comme toutes les technologies...
Pardon, là, je demande d'apporter un jugement, mais...
Je réponds avec plaisir. Comme toutes les technologies...
Il n'y a pas d'état d'âme là-dessus.
Ça dépend de votre intention. Si vous êtes bienveillant et que vous l'utilisez avec bienveillance, il n'y aura qu'un problème. Mais comme toutes les technologies, vous pouvez faire du mal.
Quels sont les pièges à éviter côté RH ? Toujours dans cet espace de disruption.
Il y en a beaucoup.
Et avec l'intelligence artificielle.
Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, il y a un premier sujet...
Quel est le danger, finalement ?
Alors, il y en a beaucoup. Premier danger, qui est absolument majeur et qui est un tabou dans notre pays, c'est que les seules entreprises capables de faire de l'intelligence artificielle aujourd'hui à un niveau avancé, ce sont les géants du numérique. C'est Amazon, c'est Google, c'est tous ces géants
qu'on a mis de site.
Absolument. Et il n'y en a pas d'autres. Donc, premièrement, se méfier des prestataires qui viennent vous vendre de l'intelligence artificielle, parce que le problème, c'est qu'ils sont obligés de vous dire qu'il y en a, qu'il y a de l'intelligence artificielle, alors qu'en réalité, c'est pas forcément le cas, et pas un niveau de performance aussi avancé que les gars. Ça, c'est le premier écueil. Ensuite, sachez aussi qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'intelligence artificielle pour aller aussi loin que tout ce que j'ai avancé juste avant. Ça, c'est très important de le dire. Surtout, ce qui est important de faire lorsqu'on est RH, c'est de savoir ce qu'on veut faire avec ces algorithmes. Ce qu'il faut retenir, la seule chose à retenir sur ce changement de paradigme, c'est qu'on passe de technologies qui étaient programmées, des logiciels programmés, codés avec des programmeurs, à des logiciels qui vont être entraînés, qui vont être éduqués avec des données. Et du coup, vous pouvez en mettre partout.
Juste encore quelques secondes, j'ai vu page 153, l'empathie, la nouvelle valeur.
Oui.
C'est un sujet dont on parle beaucoup partout, l'empathie. Et vous dites, vous n'irez plus chez votre médecin pour son expertise médicale, vous prenez cet exemple. Il ne fera plus de diagnostic ni ne prescrira plus de traitement puisque l'intelligence artificielle s'en chargera. En revanche, vous irez toujours dans son cabinet parce qu'il vous écoute, vous rassure, parce que vous avez une relation empathique et de confiance avec lui, etc., etc. Si on rapproche ça au RH, donc le DRH et les équipes RH, comme vous venez de le dire, avec le croisement des informations, n'aura plus à avoir à rechercher, c'est la machine qui le donnera, mais il y aura besoin toujours de ce contact humain pour aller rechercher la sensation, etc.
C'est l'empathie. Ça. Alors, ce que vous avez évoqué est très juste, c'est la disparition, la perte de l'expertise chez l'être humain, et c'est une excellente nouvelle. Les êtres humains sont, il faut le dire, sont mauvais en expertise. On le voit en ce moment avec les médecins. Vous voyez trois médecins, vous avez trois expertises différentes, c'est pareil chez les RH, c'est pareil chez les experts comptables, c'est pareil partout. Parce que l'expertise, elle est collective chez les humains. Et ben là, on va pouvoir converger vers la vérité avec ces technologies. Et donc se libérer de l'expertise pour aller sur l'empathie et le reste.
Merci d'être avec nous, vous restez, on va accueillir nos autres invités, on va continuer à en discuter.
BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent. Tous les week-ends sur BFM Business, Karine Verniolle décrypte les grandes mutations de la distribution. Innover pour le commerce. Expérience client, digitalisation, flagship store ou catalogue connecté, dirigeants et experts échangent autour des grandes tendances du commerce d'aujourd'hui et de demain. Innover pour le commerce, présenté par Karine Verniolle, tous les samedis à 13h30 et 18h30 et les dimanches à 15h sur BFM Business.
Prenez soin de vous, nous prenons soin de votre Volkswagen. Pendant toute la durée du confinement, nos concessions restent à votre disposition et nous vous proposons l'ensemble de nos services à distance. Les livraisons de véhicules sont assurées sur rendez-vous et conformément aux annonces du gouvernement, nos ateliers restent ouverts pour l'entretien de votre Volkswagen. Nous vous accueillons dans le respect le plus strict des mesures sanitaires en vigueur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur volkswagen.fr.
Découvrez la nouvelle application mobile Le Parisien. Enquête, débat de société, faits divers, pouvoir d'achat, santé, vos informations à tout moment et l'actualité près de chez vous. Pour accéder à tous les articles, vidéos, podcasts et votre journal en avant-première, téléchargez l'application et abonnez-vous à notre offre à 7,99€ par mois.
Le Parisien, créez du lien.
Restez connectés à l'actualité économique en téléchargeant l'application BFM Business pour tablette et smartphone. Retrouvez toutes vos émissions en live ou en replay. Et toute l'info, secteur par secteur. Bourse, patrimoine, immo, entreprise, emploi, tech. L'application BFM Business, tout BFM Business avec vous.
BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp.
Préparez-vous à changer de monde avec Stéphane Mallard. Préparez-vous à changer de job. Préparez-vous à changer tout. L'intelligence artificielle est là. Et il reste avec nous, nos invités. Ils étaient là en première partie. Je suis ravi de vous retrouver, Maëlys. Comment allez-vous depuis tout à l'heure, Maëlys Ancelin, l'entreprise qui recrute l'âge d'or avec 210 postes à pourvoir d'intervenants à domicile. Je vous rappelle que l'âge d'or, c'est le maintien à domicile des personnes fragiles, des personnes bien sûr âgées, et vu la crise, le marché est énorme. Donc il y a de quoi s'investir, avec en plus la possibilité de se brancher sur la franchise. Voilà, avec notre invité RH, le penseur de la disruption, c'est son livre de 2018, il est avec nous toujours, c'est Stéphane Mallard, entrepreneur, auteur et conférencier. Là il est sage parce qu'en plus, compte tenu du Covid, il n'a plus le droit de voyager là. Les États-Unis, la Chine, tout ça, c'est fini. Hein.
Ça va revenir.
Voilà, ça va revenir bien sûr. Là, c'est rien à voir avec la révolution, la disruption, vous l'avez entendu en première partie, il est encore avec nous. Eh bien c'est déjà ici l'intelligence artificielle. Alors de nouveaux invités, dans quelques minutes On terminera par la start-up avec Ali El Hariri, qui est président et fondateur, bonjour, cofondateur de Bulldozer. Ça s'écrit B-U-2-L-D-O-Z-A-I-R, Bulldozer, dans l'air. C'est une plateforme, une bonne idée. C'est une plateforme qui propose carrément aux professionnels, eh bien, de. Comment dire? Je cherche la formule, je l'ai là. Voilà. Son métier, c'est une solution de suivi de chantier. Qui permet à tous les corps de métier d'un projet de construction de se connecter, et ça marche et ça cartonne. Ils viennent de lever 4 millions d'euros. Il est à la recherche aujourd'hui de 20 nouveaux collaborateurs. Voilà le cadre. On va redémarrer avec notre invité mensuel, j'ai envie de dire presque mensuel, qui est notre intervenant personnel dans le club Média RH. C'est avec vous, bien sûr, mon cher Jean-Pierre Camard, président de Proconsult Group. Vous allez nous dire où on en est avec votre baromètre sur la santé, le stress au travail. C'est un travail énorme que vous faites avec vos collaborateurs. On y va tout de suite. C'est parti. C'est notre solution RH.
BFM Business, le club Média RH. Solution RH.
Alors, ça a commencé au mois d'avril, je crois, au tout début. Vous êtes venu la première fois en avril et puis vous vous êtes lancé dans une. Bon, moi, je me disais, il est fou. Il va pas y arriver. Et alors, c'est un succès énorme ce que vous vivez. Je rappelle que vous avez créé cette société Proconsult Group qui joue un rôle énorme pendant cette crise, puisque avec vos équipes de psy, vous avez combien de psy aujourd'hui?
On a 105 psychologues sur la première plateforme qui s'appelle Proconsult.
105 psychologues.
105 psychologues, oui.
Voilà, à travers la France, qui sont chez eux. Ils sont pas dans vos bureaux. Vous vous êtes installés.
C'était du télétravail avant le télétravail.
Voilà, vous êtes installés au bord de la mer, on peut le dire. Sur la côte ouest, on peut dire où?
L'Armand-Plage.
L'Armand-Plage.
Sud.
Et votre job et votre société, vous l'avez créé, on va redonner les bases, vous l'avez
créé.
En 2009.
Sur une idée d'un site de consultation de psychologues. Par téléphone.
Et ça a du sens à plus forte raison aujourd'hui, puisque vous êtes, vos clients sont des entreprises, je résume votre profil, vos clients sont des entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés la possibilité, sur un numéro affecté à l'entreprise, d'appeler pour avoir un psychologue et parler de leurs difficultés de vivre, voire leurs angoisses, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est ça l'idée. Et ça a pris du sens. Alors que vous l'aviez fait déjà depuis un petit moment, d'un seul coup avec l'histoire du Covid.
Complètement. Ça veut dire qu'avant le Covid, il y avait 3 millions de salariés qui étaient pris en charge.
Oui.
Après le Covid, c'était 5 millions. Et là, on vient de signer avec le ministère du Travail, avec Elisabeth Borne, c'est 3 millions de personnes en plus. Donc c'est vrai que c'est énorme. C'est du H24-7, c'est des psychologues diplômés. On peut rappeler plusieurs fois, on peut choisir son psychologue. En fait, on parlera tout à l'heure peut-être plus de technologie, parce que derrière, il y a plein de moteurs.
On va en parler, bien sûr. L'intelligence artificielle aussi chez
vous. Et on est à peu près une trentaine de personnes dans la tech chez nous pour gérer l'ensemble. Et ça fonctionne effectivement bien. C'est-à-dire que toute personne qui a un problème ou une problématique peut appeler et est prise en charge immédiatement en moins de 30 secondes par un psychologue.
Alors, vous nous avez amené votre fameux baromètre que l'on voit, que l'on vous demande de nous rapporter le plus souvent possible. Ça a commencé, vous nous l'avez dressé. Il y a différentes catégories de personnes. C'est un baromètre, c'est une sorte d'enquête, quoi.
Voilà, alors on peut.
Comme un institut de sondage.
On peut effectivement être extrêmement fin, même dans les catégories socio-professionnelles, ce que je n'ai pas apporté aujourd'hui, parce qu'on veut parler effectivement du Covid essentiellement. Mais comme on a 600 clients et 600 numéros verts, on a 600 bases de données.
Sur la réalité
donc
terrain.
On sait effectivement dire qui appelle, enfin, quelle structure appelle sans savoir qui appelle, parce qu'il y a le secret, bien sûr, de l'appel. Et on voit en quelques secondes, par exemple, si je regarde aujourd'hui le nombre d'appels Covid, par exemple, si on apprend dans 15 jours qu'on est reconfiné, je ne pense pas, mais je prends une hypothèse, on va voir les appels exploser dans quelques minutes. L'angoisse se traduit effectivement quasiment de minute en minute.
Alors l'évolution de ce baromètre, on va le voir à l'image, automatiquement.
Oui.
On était parti, donc il démarre, on le voit.
On le voit effectivement, il faut surtout regarder effectivement tout ce qui est en rouge sur le graphique. On a vu effectivement qu'à partir de mars, les appels dits Covid en rouge sont apparus d'abord, ont augmenté. Avril a été le mois le plus important, ensuite après il y a eu le déconfinement. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'il y a eu peu d'appels en juin, juillet, août, mais c'est normal, on était déconfinés. Et nous, on a ressenti avant même d'en parler, avant que les gens en parlent, que ça recommençait à partir de septembre.
Vous nous l'aviez dit en septembre quand vous étiez venu.
Alors je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, parce que je ne suis pas dans la prévision, je suis dans l'analyse des données, et on s'est aperçu effectivement que les soignants appelaient. Il y avait 12% des gens qui étaient restés en télétravail qui appelaient, car le télétravail c'est inconfortable. Et donc on a vu en septembre monter, octobre, et sur novembre qui n'est pas terminé, on est déjà presque à un niveau intermédiaire d'affaires entre mars et avril. Donc on voit effectivement énormément d'appels encore pour le Covid aujourd'hui.
Alors pour ceux qui nous suivent à la radio, je dois dire qu'on est en dessous d'avril. Hein.
On est en dessous d'avril.
Quand même, pas de panique. Voilà. On est en dessous d'avril.
Voilà, on est en dessous d'avril.
Largement.
Largement,
en termes de
mais on est incapable de nous de prévoir ce qui va se passer, oui, puisque c'est les décisions politiques qui sont bien compliquées à prendre,
bien
d'ailleurs,
sûr,
on ne les juge pas, qui vont effectivement déclencher plus d'appels ou moins d'appels.
Alors, j'ai noté, Jean-Pierre Camard, vous m'avez fait une petite note, je l'ai là, mais c'est parce que ce n'est pas transmissible en termes de petites barres et de bûchettes. Mm-hmm. Ce que vous avez remarqué, c'est la perte de repères.
Absolument.
C'est toujours le cas.
Là, on parle de télétravail. Hein.
Oui, oui. Alors, en parlant du télétravail pur.
Télétravail pur, oui, tout à fait.
Alors, perte de repères, manque de lien avec l'équipe, toujours.
Toujours.
Et en gros, en rouge, vous m'avez mis isolement. C'est ce que ressentent de plus en plus les femmes.
C'est quand la ministre du Travail est venue nous voir, enfin nous a pris contact avec nous, c'était ça. C'était l'isolement que le télétravail provoquait, qui est assez mal vécu effectivement par les gens qui sont forcés d'être en télétravail. Avec cette nuance que les gens ne comprennent pas toujours, c'est que le télétravail, c'est pas du travail à domicile. Et là, en fait, on dit télétravail, que les gens sont à domicile. Imaginez les gens à domicile devoir travailler 7 heures dans la journée avec une tablette sur un canapé. C'est un peu ça l'image qu'on veut donner. Le télétravail doit être organisé aujourd'hui. Hélas, il n'a pas pu être organisé.
Il n'est pas assez organisé. Commence un petit peu, mais...
Commence un petit peu, mais comprenez aussi que ça dépend de l'appartement, de la maison, des enfants, de la place qu'on peut accorder, effectivement.
Bien sûr. Surtout quand ce n'était pas privé et qu'on habite un petit appartement.
Absolument. Quoi. Et c'est quand même une frange non négligeable des gens qui appellent, bien sûr.
Alors, dans ce que vous avez noté, c'est « ça n'en finit pas », »,« manque de communication avec mon supérieur
oui. »,
pollution de mon espace domestique, on vient d'en parler.
Voilà.
Manque de matériel, en rouge. Perte de sens. Alors, dans les côtés positifs, moins de temps perdu dans les transports.
Un seul.
Et c'est mais évident. On retrouve ça dans toutes les enquêtes, d'ailleurs.
C'est évident.
Hein?
C'est évident.
Vous le notez, vous l'avez noté aussi.
Ah oui, complètement. C'est vrai que les gens, quand on leur dit, mais il y a quand même quelque chose de positif, ah oui, j'ai plus de transport. Surtout que les transports en commun, c'est deux choses. Le temps perdu et les risques aujourd'hui de prendre les transports en commun, qu'ils évoquent aussi.
Alors, Proconsul Group, votre métier, on parlait, c'est intéressant de vous avoir en même temps que Stéphane Mallard avec son livre
oui.
Disruption, parce que vous dites que, bon, au départ, votre métier, c'est effectivement de l'intelligence artificielle. Vous êtes une entreprise de l'high-tech aujourd'hui, finalement.
Ah, complètement. J'aurais tendance à dire, et je vous ai dit en souriant, parce que vous me recevez toujours aimablement, c'est qu'on
Vous êtes dans les nouvelles technologies depuis 2009.
Voilà. Moi, je ne suis pas un psychologue.
Ouais.
On a effectivement créé un site, on a créé une application mobile après, on a créé de la géolocalisation, de l'intelligence artificielle. On a travaillé en algorithmique et en intelligence artificielle avec Aurélie Jean, la société Altermind.
Vous allez dans le blockchain, bientôt.
Voilà, et on est sur la blockchain, on est effectivement en train d'imaginer des projets blockchain, donc on est en fait dans la tech. Et chez nous, il n'y a que des développeurs, le community management, il y a des commerciaux, mais commerciaux sédentaires, car on répond essentiellement aux appels d'offres. Mais c'est vrai qu'on est une boîte de la tech. Et on a un laboratoire de recherche qui s'appelle la Bretagne, avec 2B, s'il vous plaît, et qui, effectivement, étudie les nouvelles technologies. Et c'est vrai que quand j'entends, j'ai d'abord lu ce livre il y a 2 ans, enfin, quand il est paru, de Stéphane Mallard, et c'est vrai que ça m'intéresse bigrement parce qu'on est là-dedans. On a quelque part disrupté. Imaginez par exemple que nos 105 psychologues, ils ne sont pas au siège.
Alors c'est ça qui est, voilà, c'est là où vous dites, pardon de vous couper, vous dites c'est là où on est dans le disruptif.
Mais si le mot existe. Absolument.
Parce que vous qu'on faut rappeler, donc on le redit, les collaborateurs qui travaillent pour vous sont des psychologues, il y en a une centaine, un peu plus d'une centaine.
Oui.
Ils sont pas dans leur cabinet, ils reçoivent pas en cabinet. Ils sont sur cette plateforme.
Voilà.
D'où l'intelligence artificielle.
C'est pas un open space, hein.
C'est pas un open space.
Chacun est chez soi.
Voilà. Et ils interviennent sur cette plateforme.
Ils interviennent. Donc ils ont un contrat de collaboration avec nous qui n'est pas un contrat de salarié.
Oui.
Et c'est là où même, comme Monsieur Jourdain, je pense que j'ai fait de la prose sans le savoir. Et avant
ils sont en réseau.
Ils sont en réseau. Et donc ils font ce qu'ils veulent, ils refusent, ils sont moins souvent en fonction de ce qu'ils font par ailleurs car ils travaillent autrement. Et là où parfois on évoque le terme ubérisation dans le métier qu'on fait, ça veut dire d'abord ils sont très compétents, ce qui n'est pas toujours le cas de certains chauffeurs de taxi, et ça veut dire effectivement qu'ils sont hyper technologiquement à la pointe. Et le fait de travailler en réseau, il y a une économie d'échelle effectivement par le fait qu'on n'a pas besoin de gérer 105 salariés à temps partiel.
Alors je vais faire réagir notre expert Stéphane Mallard. Donc on est dans le disruptif là aussi.
Ah oui, et puis on est même en avance de phase, puisque c'est quelque chose qui va avoir lieu dans tous les secteurs, sans exception.
On consulte, oui.
Absolument. Alors, vous savez, on a beaucoup caricaturé quand ce modèle-là est arrivé avec Uber, avec les chauffeurs de taxi.
Oui.
Mais en réalité, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps avec les développeurs informatiques. Les meilleurs étaient pas salariés. Et les seuls qui pouvaient se payer les meilleurs, c'était Google.
Oui, c'est ça.
Parce qu'ils avaient un pricing power. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, les seuls capables de faire de l'IA, c'est ces géants. Ce qui se passe, c'est que les entreprises vont utiliser les blocs technologiques fournis par ces géants pour créer de la valeur et les utiliser et ensuite produire du service. Typiquement, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de réinventer Google Maps. Google Maps, Google l'a fait, Apple a fait le sien, et maintenant tout le monde peut utiliser les cartes Google Maps pour faire des services par-dessus. Mmh. Uber est né comme ça. Et tous ces blocs technologiques sont disponibles partout.
Alors,
et
les entreprises,
c'est les agrégés.
Les experts métiers dont parle notre ami Jean-Pierre Camard, c'est ça. Les experts métiers ne sont pas forcément des salariés, mais ils travaillent en réseau.
Absolument.
Et vous pensez que ça va se développer?
Oui.
Alors c'est pas possible dans tous les métiers, parce que, chère madame, vous qui cherchez des collaborateurs pour aller voir les personnes âgées, là, il n'y a pas de possibilité de... Comment dire? Là, il faut y aller, quoi. Il faut aller chez les clients, là.
Effectivement, la présence physique est importante, indispensable, mais il y a des modalités qui évoluent. Ah. Donc, on n'est pas forcément, nous, à ce stade, sur un changement disruptif complètement de modèle. En revanche, il y a des modalités d'intervention qui peuvent, aujourd'hui déjà, un petit peu évoluer. Notamment, on a une prestation et un service qui s'appelle l'assistance informatique. Et aujourd'hui, et dans cette période de confinement, cette assistance informatique peut se faire à distance. Et un peu, c'est la dame de compagnie à distance. Et qui est un peu dans
cette... Vous m'inquiétez, la dame de compagnie à distance.
Ne vous soyez pas inquiet. On reste sur la personne qui prend en charge un service, mais vous pouvez faire la lecture à une personne, éventuellement, à distance, avec un système de vidéo.
Oui, alors c'est ce que j'allais... Pardon, excusez-moi de vous couper. Mais est-ce qu'on peut dire que demain, la visio va pouvoir améliorer les choses? C'est-à-dire qu'on peut avoir une caméra pratiquement chez les personnes âgées qui sont seules chez elles et pouvoir être en contact permanent comme si elles étaient avec nous dans l'appartement?
Alors, il y a déjà des solutions qui existent, tout ce qui est téléassistance et des choses comme ça, que c'est des solutions qui permettent...
Au-delà de la téléassistance, de l'assistance.
Oui, tout à fait. Donc, il y a déjà ce premier point qui existe. Et puis, il y a un deuxième point, effectivement, sur la visio. Ça se développe beaucoup, notamment pour avoir une proximité avec ses parents, son père, etc. Et alors, nous, on vient de lancer un partenariat, c'est un exemple, avec une société qui s'appelle Tiki ou La Poste, qui est une tablette ardoise qui permet justement d'avoir cette présence physique via un dispositif numérique au domicile. Et donc, via cette tablette, je peux avoir une prestation à distance et quelqu'un qui me fait la lecture, ou mon fils, ma fille, qui peuvent également me rendre un service à distance.
Vous voulez réagir, Stéphane Mallat?
Oui.
Après Jean-Pierre Camin.
Alors, effectivement, le modèle sans salariat, il peut se faire sur du physique ou du non-physique, absolument. Et comme je vous disais, ça a touché tous les secteurs. Ce que vous dites est très intéressant, parce que ce qui va avoir lieu avec l'intelligence artificielle, qui commence déjà aujourd'hui, c'est que vous allez avoir des assistants intelligents qui vont être votre espèce de compagnon virtuel, et ce sera tellement puissant que vous ne ferez plus la différence avec un être humain. Alors, on n'est pas encore dans cette phase, c'est pour ça qu'on a encore justement besoin de ces interactions à distance. J'espère. Là, on est dans la phase justement où on rend le travail flexible avec ces technologies. Mais dans un deuxième temps, effectivement, on aura des algorithmes qui prendront ce relais-là. Et vous savez quoi? Ce sera encore mieux qu'un être humain, parce que ce sera une copie parfaite de nous qui interagira directement avec notre cerveau.
Jean-Pierre Camard, le coworking, vous, c'est quelque chose qui vous intéresse de près qui...
Je voulais juste faire une remarque.
Allez-y.
Vous avez dit, parce que ça m'intéresse. J'étais au CES de Las Vegas en janvier dernier, avant tous ces événements.
Vénard, avant.
Je vais vous dire une chose. Il y avait à peu près 90% des stands qui étaient des bracelets connectés, tout ce qu'on peut imaginer en médecine pour qu'une personne chez elle, et c'est comme ça que je l'ai imaginé quand je l'ai vu, puisse avoir des informations sur le côté cardiaque, le côté AVC, tout. On pourrait presque dire que quand j'ai vu ça, j'étais passionné par le fait de dire un jour, on sera plus en sécurité quand on sera âgé chez soi que dans un EHPAD où les gens viennent toutes les heures, il peut se passer plein de trucs, et là, on peut avoir en direct, là, des informations sur la santé des gens. Et c'est génial, je trouve que...
Voilà, on pourrait appeler, entre guillemets, non pas une caméra de surveillance, mais une caméra de vie.
Voilà, c'est ça.
Une caméra de vie, tout simplement. Les petits-enfants peuvent se brancher sur Internet, la caméra est permanente chez la mamie ou le papy, c'est de l'accompagnement pur.
Voilà, après, il y a un respect quand même de ce que souhaite la personne.
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a,
bien sûr.
Pas
on est d'accord. Il y a une intimité à conserver.
Il y a des limites à gérer, et puis après, il y a cette place de la personne dans le service et ce dilemme machine-personne qui est à traiter.
C'est un chantier, tout ça.
C'est un chantier.
En cours, on peut dire ça. C'est un chantier, vous me voyez arriver, parce que j'ai dans le sommaire, notre invité suivant est déjà en train de sourire. Ça nous permet d'aller vers la start-up. La start-up qui, elle, à propos de chantier, veut tout simplement permettre de proposer une solution de suivi de chantier qui permet à tous les corps de métier d'un projet de construction de se connecter. On passe à autre chose, mais on reste dans l'intelligence artificielle, on reste dans la plateforme, on ne parle que de ça, c'est fini, ce sont les sujets d'info aujourd'hui et dans toutes les chaînes. On est ravis de vous recevoir, vous avez des postes à pourvoir, c'est parti, la start-up qui recrute.
BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute.
Bonjour, je suis ravi
Bonjour.
On s'est déjà rencontrés. Hein.
Oui.
Voilà, vous êtes passé dans notre chronique quotidienne compétences. On a été bluffé par votre business, votre réussite, et puis vous avez des postes à pourvoir. Nous, c'est notre rôle. Hein. On ne fait pas de la description de start-up. On présente des start-up, bien sûr, mais on est là pour aider ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent sur BFM Business Radio ou télé, ben, de recruter leur futur employeur. Combien de postes à pourvoir aujourd'hui?
On a 20 postes à pourvoir.
Voilà, vous doublez, non, vous êtes 20 collaborateurs.
Oui, c'est ça.
Donc c'est doubler l'effectif.
C'est ça, exactement.
Et tout ça parce qu'on va en parler, vous venez de lever 4 millions d'euros malgré la crise.
Oui.
Vous avez trouvé des investisseurs qui sont persuadés que vous êtes une pépite. On parle de vous, on dit la pépite française de la PropTech. C'est quoi la PropTech? Je ne connaissais pas ce mot.
La PropTech, en fait, c'est toutes les technologies qui sont liées, finalement, de près ou de loin à l'acte de construire. Donc, on a un grand secteur qui est fait de technologies dans l'immobilier, de technologies dans la construction. Nous, on est plus dans ce qu'on appelle la Construction Tech. Donc, c'est une sous-partie de cet ensemble-là.
Démocratiser la solution de collaboration digitale dans le BTP.
Exactement.
Ouais. Alors, expliquez-nous notre métier. D'abord, on va donner la carte d'identité, comme on le fait chaque semaine, pour présenter la start-up du jour. Date de création, 2013, je crois.
Oui.
Voilà, alors c'est plus une start-up non plus. Bon, start-up, c'est un an, deux ans.
Oui, après, à l'échelle du BTP, les choses prennent du temps. Donc, en fait,
c'est pas gentil pour les gens du BTP.
Ah, je suis un ancien du BTP, donc je l'assume.
Ça veut dire c'est long, quoi, c'est long à bouger. Alors, création 2013, 20 collaborateurs, 4 millions d'euros levés. C'est
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Votre spécialité, c'est donc cette plateforme que... Prenons un exemple concret pour expliquer votre métier.
Alors, de manière très concrète, donc nous, on est éditeur logiciel et on a fait une application donc mobile qui fonctionne sur des smartphones ou des tablettes ou web, pour plutôt des gens qui sont au bureau, et qui est destinée à faciliter le suivi de chantier et la collaboration autour des chantiers. Donc, très concrètement, sur le chantier, on a des personnes qui sont des opérationnels avec leur smartphone. Ils prennent des photos, ils remplissent des formulaires digitaux, ils remontent de la donnée de terrain. Pour eux, ils ont un gain de temps. C'est beaucoup plus facile que de remplir des formulaires papier, revenir au bureau, chercher des plans, etc. Ils ont tout dans leur poche, au final. Et pour le management et l'encadrement au bureau, ça leur donne finalement de la... Ça les rassure sur l'issue positive du projet. Ça va être dans les temps, dans le niveau de qualité attendu. Oui. Et ils suivent des indicateurs depuis leur PC.
Avec
derrière
les délais, avec rectification des délais, ça arrive mal.
Oui, mais tout à fait, avec des alertes qui disent attention, sur tel chantier, on commence à prendre du retard, ou alors sur tel chantier, on commence à avoir des vrais sujets de qualité ou d'environnement. Enfin, on met les indicateurs qu'on veut.
Il n'y a pas de tabou. Tous les intervenants d'un projet de construction peuvent se connecter. C'est à la fois les ingénieurs, les conducteurs de travaux, mais aussi les architectes, les bureaux d'études, maîtrise d'ouvrage. Question, pardon, avant d'aller plus loin, est-ce que c'est réservé aux constructions de chantiers de bureaux, d'immeubles, ou voire même à un particulier qui veut construire sa maison?
Alors c'est plutôt B2B, c'est-à-dire qu'on s'adresse vraiment aux entreprises et aux professionnels. Oui. Par contre, en termes d'industrie, on travaille sur...
Non mais vous avez compris, est-ce que c'est aussi pour, au final, les particuliers? Je parle de...
Pour construire un logement, vous voulez dire?
Oui,
tout à fait, on construit tout type d'ouvrage.
Voilà,
l'idée, c'est qu'il y a des travaux et qui sont un peu difficiles à coordonner,
d'accord.
Et nous, on est là pour faciliter, en fait.
Et on peut gérer toutes les tâches, quoi. On l'a compris. On a vu des images passer, d'ailleurs.
Oui,
tout le monde se connecte et ça permet d'avoir une vision. Tout le monde peut être informé. C'est ça qui est nouveau, c'est le partage de l'information. On est dans les disruptions, le partage de l'information.
Alors pour l'instant, on est dans la disruption. On est surtout dans la digitalisation et
c'est le cas, comme
tous les secteurs qui nous entourent, qui ont besoin de se digitaliser.
Oui.
Et la prochaine étape, ça sera de rendre obsolète. Et là, il faut voir ce qu'il y aura à casser dans ces secteurs-là.
Et on va... Alors, ce qu'il y a de bien avec votre système, avec votre plateforme, c'est que finalement, les managers des chantiers, c'est ce que j'ai pu voir, c'est logique, en parallèle, quoi. Le management peut, grâce à la centralisation et l'analyse de ces informations par bulldozer, par votre société, ben, il peut être alerté sur les risques de retard, sur les problèmes liés à la construction, ce qui n'existait pas avant.
Bah, en fait, le management sur un projet, il a deux choses à faire. Il doit faire énormément de paperasse et donc de tâches à très très faible valeur ajoutée. Et ça, on l'automatise complètement. Et derrière, il avait jusqu'à présent pas beaucoup d'outils pour l'aider à analyser est-ce que le chantier était en retard ou pas, si ce n'est quelqu'un qui l'appelle et qui lui dit bon, il y a peut-être un risque là-dessus. Donc finalement, c'était très manuel. Aujourd'hui, finalement, la collecte d'informations, elle est facilitée pour les gens de chantier. En plus, on leur rend service parce que c'est beaucoup plus facile et rapide à utiliser. Et au management, on leur donne des outils et des indicateurs.
25% de gains de productivité. Alors, qui recherchez-vous? Comment peut-on vous aider? Allons-y dans le dur.
Dans le dur.
Dans le bâtiment.
Bah, très bien. Donc, on cherche des gens pour nous aider à
développer.
Combien
de postes? On a dit une vingtaine.
Une vingtaine de postes. Donc,
ça va de quoi à quoi?
Alors, on cherche déjà sur le volet technique des développeurs. Donc, développeurs mobiles, iOS, Android, et aussi développeurs JavaScript, plutôt pour le web, en tout cas de notre côté. Plutôt senior comme profil, oui. C'est ce qu'on cherche. À côté de ça, donc la société donc est en pleine expansion et on a levé des fonds pour ça, pour accélérer notre développement commercial. Et là, on cherche plutôt des gens qui étaient commerciaux et qui vont nous aider à commercialiser la solution auprès de grands groupes, mais aussi auprès de TPE et de PME. Parce que c'est un nouveau secteur de marché qu'on a attaqué il n'y a pas très longtemps et qui marche très bien et qui va aider justement le secteur à finalement fluidifier les échanges. On parlait de Covid, on parlait de travail à distance. Nous aussi, on intervient à ce niveau-là pour éviter d'aller faire des réunions de chantier sur le terrain pour rien.
Alors, première question, qui recherchez-vous ? Vous venez de répondre. Oui. Où ces postes sont-ils à pourvoir ? Immédiatement, on le rappelle, hein, c'est maintenant. Alors, on avait besoin immédiatement.
Tout de suite maintenant, toute la société travaille en télétravail.
Et ça, d'accord. Oui,
finalement, depuis le début. Et y compris à l'international. Donc, finalement, on arrive à tous travailler à distance. On fait encore des points ponctuels.
Comment fait-on pour recruter en télétravail, d'ailleurs ?
Figurez-vous que nous, on a des profils qu'on a recrutés et qu'on n'a jamais vus physiquement. Donc, tout à fait. Ouais.
Vous avez embauché des hommes et des femmes comme ça ?
Oui, tout à fait.
Sans les avoir vus physiquement ?
À part en visio, non. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est les nouveaux modes de collaboration. Donc, nous, clairement, c'est beaucoup plus facile.
Il y a vraiment un nouveau monde.
Hein. Ouais. C'est beaucoup plus facile pour nous de le faire parce qu'on est une société d'édition logicielle, on a beaucoup d'outils, etc. Pour les chantiers, donc il y a nos outils pour faciliter, mais c'est des choses qu'on n'avait pas fait auparavant et qui sont possibles aujourd'hui.
Oui, donc à la question poste à pourvoir, physiquement, pour l'instant, il n'y a pas de poste. Alors, l'espère. Si... Oui, allez-y.
Pardon, oui, sur le lieu géographique, donc le centre historique de Bulldozer se trouve donc à Paris, dans les locaux de la station F.
D'accord. Qu'est-ce que vous attendez comme qualité ? Quelle est l'erreur à ne pas commettre, puisque vous êtes le fondateur de Bulldozer, à ne pas connaître quand vous recrutez auprès de... Quels conseils vous leur donnez finalement aux candidats ?
Finalement, d'être assez naturel. Nous, on a une grosse valeur. On parlait d'empathie tout à l'heure. C'est marrant parce que ça m'a fait réagir quand je regardais dans les coulisses. Nous, c'est une force en fait chez nous. C'est vraiment d'essayer de pas avoir des requins qui jouent de leur côté en individuel, mais vraiment quelqu'un qui vient contribuer à l'équipe. Donc là-dessus, on est. Je pense il faut rester naturel et rester empathique.
De l'empathie partagée.
De l'empathie pour l'équipe. Et pour les clients, parce qu'on sert à un secteur d'industrie qui est très très...
Il nous reste 40 secondes, pardon de vous couper. le point plus que vous avez à offrir, vous, pour les ingénieurs, pour les développeurs, etc. Un mot.
Alors, l'industrie qu'on adresse, parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est une industrie très compliquée à digitaliser.
Merci à vous, bonne chance. Bulldozer avec R à la fin. Merci Jean-Pierre Camard pour Proconsult Group. Vous reviendrez nous faire le point peut-être en décembre.
En décembre, oui.
Voilà, puis j'espère que ça va aller mieux, que ça va s'améliorer.
Et on sera déconfiné.
Et on sera, j'espère, déconfiné. L'âge d'or, des postes à pourvoir un peu partout et aussi de la franchise.
Exactement.
Et merci Disruption. Vous avez un nouveau livre, vous êtes en train de travailler dessus, c'est ça ?
Oui, ça sera beaucoup plus philosophique celui-là.
Plus philosophique. Très bien. Je vous souhaite un bon week-end, passez un bon moment avec sur BFM Business. Restez fidèles. Je vous dis à vous le week-end prochain. Salut, bon week-end.
BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.